Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir les cas de naufrage sur le fleuve Congo? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Didier Mukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo. Monsieur Didier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Également dans ces studios, Monsieur Désiré Baleka, notable du territoire de Bolumba. Monsieur Désiré, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Comment promouvoir l'écotourisme en République démocratique du Congo? Jean-Christophe Bopila, président d'Embu Montour, sera notre invité à partir des 11h05 heure de Kinshasa. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Tati Mapoukwa assure la coordination et la réalisation de cette émission que présente aujourd'hui Daniel Kajama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone par un simple appel au 42-502. Une fois sur le 42-502, vous avez le choix entre différents programmes. En tapant le 311 pour le journal, la revue de presse au 312, le flash info au 313, le 321 pour le sport, la chronique santé au 322 et Banandoulé au 323. Le 42-502, c'est Radio Okapi dans votre téléphone, accessible à partir de 10 appels gratuits par mois au 42-502, uniquement pour les abonnés Vodacom.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous parlons aujourd'hui de la prévention des cas des naufrages sur le fleuve Congo. Vous savez, dans la province de l'Équateur, environ, on parle d'une centaine de personnes disparues. C'est le bilan provisoire d'un naufrage qui s'est produit dans la nuit du vendredi au samedi dernier au large de la ville d'Mbandaka, les HB Mapamboli. Cette embarcation de bois a coulé et s'est rendue à Bolumba Centre selon des sources locales. Alors des cas de naufrage sont couramment enregistrés, sont fréquents dans les cours d'eau de la RDC. Et on en parlait le plus souvent, mais il y a toujours pas des solutions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions durables face à cette question qui revient souvent? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Nous avons dans ce studio Monsieur Didier Mukoma, représentant des armateurs à la FEC, Monsieur Désiré Baleka, notable du territoire de Bolumba, et on aura également en ligne Jean-Didier Minengou, qui est le coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique. Alors, Monsieur Didier Mukoma, d'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pouvez-vous nous retracer le film de l'événement?
Justement, il s'agit d'une baleinière, donc, c'est-à-dire une baleinière, c'est une embarcation en bois qui a quitté Kinshasa pour Bolumba. Alors, il était en escale dans un des ports de Mbandaka, et c'est à 21h, je crois, du dimanche 14, que l'événement est arrivé, c'est-à-dire suite à un mauvais chargement, la baleinière a basculé pendant les manœuvres, et c'est ainsi qu'il y a eu des passagers qui sont tombés dans l'eau avec quelques marchandises, mais la baleinière n'a pas coulé entièrement, c'est une partie qui a coulé, et les passagers, par ce déséquilibre, sont tombés dans l'eau. Et il y a des cas de morts et puis des rescapés aussi, des corps qu'on n'a pas retrouvés, qu'on est en train de chercher jusqu'à ces jours.
Mais on parle déjà d'une centaine de morts.
Voilà, jusque-là, on parle des centaines de morts, mais vous savez, dans ce domaine, on a toujours difficile à connaître les nombres parce que les services qui sont là n'enregistrent pas.
Il n'y a pas de manifeste,
il n'y a pas de manifeste de transport des passagers, donc ce qui fait qu'il est difficile de déterminer le nombre de passagers qui étaient à bord et ceux qui ont disparu.
Voilà. Peut-être ceux qui sont repris sur le manifeste, c'est pas exactement le nombre des gens qui étaient là-bas.
C'est à titre indicatif. Normalement, le chiffre réel n'est pas connu parce que l'embarcation des passagers s'est fait à tout moment et personne ne s'occupe de ce qui est du manifeste des passagers.
Voilà. Bien, donc voilà la situation qui est arrivée. Bon, il y a des cas, ça c'est le énième cas qu'on enregistre, des naufrages, tout ça. Pourquoi on en parle souvent, mais il n'y a pas toujours des changements?
Mais vous le remarquerez, ce n'est pas la première fois que je suis dans ces studios pour parler des mêmes cas d'accident. Ici, normalement, le transport fluvial, c'est un des secteurs qui est beaucoup plus négligé. Vous remarquerez que même les autorités, le gouvernement, depuis des années et des années, ces secteurs n'ont jamais été pris en compte pour ce qui concerne le fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qui sont à la base de ce, ces accidents.
D'abord pour Senofra, enfin, c'est quoi la raison
Oui, mais pour Senofra, vous savez, d'abord, les baleinières en bas, ce sont des unités qui sont tellement trop fragiles et trop sensibles et qui ne sont pas affectées à faire des longs voyages tels qu'ils les font de Kinshasa jusqu'à Bolomba. C'est vraiment une très grande distance. Et des dés, ils ne peuvent pas charger de grandes capacités, de grandes tonnages tels qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait, il paraît plus, je ne sais pas, des 100, 200 tonnes de ciment. Ce qui n'est pas normal pour ces types d'unités.
Et à part les ciments, il y a aussi les humains qui sont là.
Oui, il y avait les passagers. Donc, il y avait un mauvais chargement. Alors, ils n'avaient pas pu bien contrôler leur chargement. C'est maintenant, en voulant quitter le port, comme ils étaient, à la moitié de la baleinière était sur le banc de sable. C'est en quittant le port, la baleinière a déséquilibré. Et une partie de passagers, une grande partie des passagers sont tombés, ils sont tombés dans l'eau. Et voilà, c'est ça... la cause de l'accident de cette baleinière. Mais plusieurs autres causes, plusieurs autres accidents, c'est dû aussi à beaucoup de facteurs que nous avons toujours énumérés, que nous avons toujours cités à tout le temps, que nous avons toujours décrié, mais personne n'en prenne pas avec beaucoup de considération.
Beaucoup de sérieux. Ouais. D'accord. Monsieur Désiré Baleka, vous êtes notable du territoire de Bolomba. Les cas de naufrage sont fréquents sur les cours d'eau de la RDC. Quelles sont les solutions?
Oui, merci M. Jody. Puisque nous parlons de Bolomba, puisque vous m'avez invité en qualité de ressortissant du territoire de Bolomba, je voudrais commencer par réitérer mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées de notre territoire de Bolomba, de la province de l'Équateur, et je dirais même de la RDC, puisqu'il s'agit d'un cas vraiment national. Alors, pour revenir à votre question, c'est comme mon co-débatteur a dit, il s'agit bien du naufrage d'une embarcation en bois appelée baleinière qui portait le nom de HB Mapamboli. Et si on est arrivé à cela, je pense que c'est puisque l'État congolais n'a pas pu mettre à disposition de ses populations des moyens de transport adéquats. C'est ainsi que les gens sont allés, je dirais, au débrouillardisme. On se débrouille pour aider la population à se déplacer. Et c'est ce genre d'embarcation, c'est ce genre de moyens de transport que nous trouvons fréquemment dans notre territoire, qui font des navettes entre les différents coins du territoire et les centres du chef-lieu de la province à l'Équateur, donc en Mbandaka. C'est une baleinière qui fait des navettes habituellement, hebdomadairement, de Mbandaka à Bolomba.
À Bolomba. Oui. Et mais pas de Kinshasa à Bolomba.
Non, non, ça fait Mbandaka à Bolomba.
Et pourquoi cette fois-ci, ils ont fait Kinshasa à Bolomba? Ils voulaient faire Kinshasa à Bolomba?
Non, je n'ai pas cette précision-là. Moi, je sais que cette embarcation-là fait Mbandaka à Bolomba. Ça quitte souvent Bolomba le mercredi pour arriver à Mbandaka le vendredi. Non, en fait, ça quitte... Bolomba le lundi, ça arrive en Mbandaka le mercredi, et après ils repartent le vendredi pour revenir, pour arriver à Bolomba le dimanche. C'est comme ça toutes les semaines.
Bien, nous avons en ligne Jean de Dieu Minengou, coordonnateur adjoint de l'Agence congolaise pour la transition écologique. Jean de Dieu Minengou, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue dans cette émission. Vous avez suivi le naufrage de cette embarcation dans la province de l'Équateur qui a fait aujourd'hui, les bilans ont été revus à la hausse. Aujourd'hui, on parle déjà des 100 personnes disparues. Alors, il y a souvent des cas de naufrages, on en parle souvent, mais pas toujours des solutions. Alors, d'après vous, quelles sont les solutions durables à apporter à ce genre de catastrophe?
Oui, je crois que je dis, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions qui sont en train d'être prises au niveau des institutions de la République démocratique du Congo. D'abord, les causes des embarcations sont connues de tout le monde. La première cause, c'est l'absence d'entretien et d'aménagement des voies navigables de la République démocratique du Congo. Ça fait plusieurs années que les voies d'eau navigables des RDC ont été entretenues et aménagées. La deuxième raison, c'est la qualité des embarcations, les unités qui flottent sur les eaux de la République démocratique du Congo ne sont pas les unités habilitées à faire ce travail. Et la troisième raison aussi, c'est la qualité du personnel navigant. Donc chacun peut se réveiller le matin et pour devenir, je ne sais pas, on appelle matelot, pour devenir quelqu'un qui peut conduire le bateau, etc., etc. Et aussi l'absence du contrôle sur les voies navigables de la République démocratique du Congo. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de travailler et surtout la présidence de la République, à travers l'Agence congolaise de la transition écologique, à travailler sur la création et l'opérationnalisation de ce qu'on appelle les fonds d'entretien des voies fluviales ferroviaires. Pourquoi faire? C'est parce qu'aujourd'hui, pour entretenir les voies navigables, il faut de l'argent. Aujourd'hui, pour que même nos balisères fassent le travail, il faut demander l'argent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, et dans ces conditions, on ne va jamais le développement durable. Donc c'est ainsi que l'Agence congolaise, sur instruction du président de la République, Antoine Tshisekedi, a travaillé sur la création et l'opérationnalisation de ce que j'ai déjà dit, le fonds d'entretien des voies fluviales et ferroviaires. Les textes sont déjà écrits, nous sommes dans la phase de nettoyage des textes, je crois que d'ici la fin de cette semaine, et d'abord le président de la République, lors du conseil du ministre qui s'est tenu au mois d'août, est revenu sur la question de l'opérationnalisation de ces fonds. Donc nous allons transmettre les textes au directeur de cabinet qui le fera à son tour au Premier ministre pour que les décrets portant création de ces fonds soient signés et que l'arrêté interministère soit également signé pour que la République mobilise les ressources nécessaires pour entretenir les voies navigables et ferroviaires de la République démocratique, mais donner également aux structures qui font les contrôles, parce que ces structures n'ont pas de moyens nécessaires. Vous avez la marine, par exemple, qui devrait contrôler les embarcations, n'a pas de ressources, comment elle va faire? Donc nous avons prévu également quelques ressources pour la marine, pour assurer les contrôles de toutes les unités qui flottent sur les eaux de la République démocratique du Congo. Donc il y a des efforts importants qui sont en train d'être fournis au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo et surtout au niveau du cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi.
Oui, bon, ce fonds n'est pas encore créé, voilà, mais entre-temps, il y a des urgences, il y a déjà un cas de naufrage, pourquoi? Parce que l'embarcation était sur un banc de sable, et puis il y a eu des équilibres, etc. Bon, on attend souvent les financements de l'Union européenne et des autres partenaires pour entretenir les voies navigables. Maintenant, en attendant que cette agence, que ce fonds soit créé, qu'est-ce qui peut être fait dans l'urgence?
Ce qui est fait en urgence, c'est d'abord le contrôle des unités flottantes sur les eaux. Je crois qu'il y a des services qui sont déjà à pied d'œuvre pour que les unités qui flottent sur les eaux respectent les tonnages. Les unités qui n'ont pas des capacités nécessaires pour assurer à la fois le transport de marchandises et des personnes ne peuvent pas les faire. Donc il y a un travail qui se fait dans ce sens, d'abord au niveau du contrôle, mais à ce qui concerne l'entretien, il y a des efforts qui sont en train d'être fournis au niveau des établissements comme la voie, des voies fluviales et ferroviaires. Il faut faire le minimum, mais il faut collecter les ressources. Donc on est dans une approche de durabilité et je crois que le fonds va apporter des réponses nécessaires à la navigabilité dans les eaux de la République démocratique du Congo, et cela va permettre à notre pays d'entrer sur ce qu'on appelle les transports multimodaux interconnectés, et cela est aussi nécessaire pour la participation de la République démocratique du Congo à la zone de libre-échange continentale, parce que sans voie de communication, il n'y a pas d'échange entre le peuple et les citoyens.
Bien, merci à M. Jean de Dieu Minengou. Je reviens à vous, M. Didier Mokoma. Alors, vous avez suivi, M. Minengou, votre réaction.
Oui, il a tout à fait raison. Et je suis d'ailleurs content d'entendre que voilà, les projets pour le financement des balisages et certains services de l'État évoluent. C'est vraiment un grand plaisir pour nous. Mais ce n'est pas seulement ça la solution. Vous avez entendu. Mon co-débatteur à côté qui a parlé du manque de transport, disons des bateaux affectés au transport des passagers. Nous aurons aujourd'hui des balisages, mais les passagers là, comment ils vont se déplacer de Kinshasa jusqu'à l'intérieur du pays? Parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas de route d'ici jusqu'à l'équateur. Le seul moyen qui nous reste, c'est la voie d'eau et les avions, et que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre les avions. Donc, alors, avoir des bateaux affectés au transport des passagers, c'est tellement très 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 important. Et la seule personne qui pourra faire, c'est l'État, parce que c'est un mode de transport qui coûte très cher. Et vous remarquerez que l'ONATRA, il a 2-3 bateaux qui sont en état de navigabilité, mais il n'a pas les fonds de déroulement, donc les faits de fonctionnement. Il ne sait pas comment envoyer ces bateaux-là pour le transport des passagers. Donc l'État doit s'investir à ce qu'il y ait au moins des bateaux qui sont habilités, affectés au transport de passagers, pour éviter que les passagers puissent embarquer sur des nuits.
Mais tous ces bateaux dont on parlait, Kokolo par exemple, qui a été réhabilité dernièrement, qu'est-ce que Kokolo est devenu?
Ils sont là.
Il y a Moudimbe, il y a Tchatchi, Colonel Tchatchi et bien d'autres bateaux là qui assurent les transports.
Ils sont là, ils sont dans les ports, ils sont bloqués parce que, comme j'ai dit, les fonds de déroulement sont tellement énormes et que l'ONATRA n'arrive pas à faire fonctionner, à faire voyager ces bateaux. Donc c'est un problème très très important. Aujourd'hui, il faut qu'on trouve une solution à cela. Sinon, ces gens vont toujours embarquer dans des unités qui sont affectées à des transports de marchandises. et il y aura toujours des problèmes et des cas d'accidents qui vont créer des morts d'hommes. Et à part cela, nous avons aussi, M. Dédonin venait de le dire aussi, c'est la négligence dans les services. Donc il n'y a pas de rigueur dans les contrôles. Et vous remarquez, tout le monde...
Quel est le service qui est censé faire le contrôle avant qu'une embarcation ne quitte le port?
Le premier service, c'est la direction de la marine qui est représentée par un commissaire fluvial dans chaque port. Et dans les ports, il n'y a pas de commissaires fluviaux. Nous avons, ils ont aussi ce qu'on appelle des chefs de poste qui représentent les commissaires fluviaux dans d'autres ports, soit à l'intérieur ou bien ici à Kinshasa. Et ce sont ces gens-là qui donnent l'accord pour qu'un bateau puisse quitter le port. Et avant qu'ils donnent cet accord, ils doivent vérifier que vraiment le bateau a été bien chargé et qu'ils respectent toutes les normes pour le laisser partir.
Donc ce service-là est le premier responsable quand il y a des situations comme ça qui arrivent.
Justement, c'est le premier responsable. Parce que vous avez dit, on a parlé aussi qu'il y a le personnel navigant qui ne sont pas formés. De même côté administratif, nous avons des personnels administratifs qui ne sont pas aussi formés. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la navigation, ce qui les concerne, ces personnes.
Donc ils sont corrompus et qui laissent faire. C'est l'argent, dès qu'on a l'argent,
on a les permis de conduire et puis les autorisations, on paye l'argent et c'est fini. Et aussi, il y a aussi un conflit de compétences
entre les services de l'État.
Pas même entre les services de l'État, entre les gouvernements provinciaux et les ministères des Transports. Parce que tous ces commissaires fluviaux qui sont affectés dans des ports, ils dépendent de deux structures. Et maintenant, en cas de problème, par exemple, si il y a faute au niveau du commissaire fluvial et qu'un commissaire fluvial est démis de ses fonctions, le gouverneur est en mesure de bloquer. Et dans le même sens aussi, si le gouverneur aussi veut faire partir un commissaire fluvial, le ministère des Transports peut bloquer. Mais nous savons que la gestion des transports, il est d'attribution du ministère des Transports national. Alors il faudra peut-être qu'on laisse au ministère de Transport National qu'il puisse bien faire son travail avec ses représentants, qu'il ait laissé au gouverneur qui voit que l'argent qu'il fait rentrer à travers ces services-là.
Donc, Monsieur Désiré, donc on dit, quand il y a des naufrages comme ça, c'est le service de la marine qui donne les autorisations, qui est responsable.
Bien sûr. Et d'ailleurs, avant d'appuyer ce que M. Didier venait de dire là, sur le fait qu'il y a un manque de contrôle comme tel par les services de l'État habilités à le faire, je voudrais rappeler que pour ce qui est du territoire de Bolomba dont il est question aujourd'hui, par rapport aux voies de communication routières et navigables, donc nous avons 492 km de routes nationales, nous avons 1283 de routes de dessertes agricoles. Ça, c'est par rapport aux routes. Tandis que sur ce qui est des cours d'eau navigables, nous avons au total 1360 km de rivières et 1548 km des affluents. Donc vous vous rendez compte que les moyens de transport, la voie la plus utilisée dans les territoires, c'est la voie navigable. Donc on peut bien mettre en place un fonds pour entretenir ces voies navigables. On va bientôt former les gens, c'est bon, mais il faut aussi que l'État qui est l'organisateur du système de transport puisse mettre au bénéfice de cette population des moyens de transport accommodés, capables de transporter les gens et les marchandises comme il faut. L'ONATRA à l'époque là, avait des bateaux. Quand vous aviez cité les Kokolo là, quand nous on grandissait, il y avait des bateaux qui
faisaient... Il y avait Kokolo, il y avait Gungu.
Oui, il y avait des bateaux qui faisaient
Mudimbe,
Kinshasa, Basankusu. Gungu, comme vous dites là, Gunzi, Gombalo, Goma et autres, ça facilitait le transport des biens et des personnes. Mais puisque l'État
ça assurait la liaison Kinshasa jusqu'à Kisangani aussi.
Bien sûr. Donc de Kinshasa, vous allez à gauche par le fleuve jusqu'à Kisangani, et à droite, là, vous prenez la rivière Lulonga jusqu'à Basankusu, vous entrez un peu partout. Donc maintenant que l'État a démissionné de cette mission-là, il n'assure plus le transport.
Ce sont les privés maintenant qui se débrouillent.
Les privés qui se débrouillent. Pour faire du commerce et aussi pour aider la population. Sinon, ni t'étais ce débrouillardisme-là, la population ferait quoi?
Mais quand vous prenez une baleinière, c'est déjà en bois, est-ce que ça peut prendre autant de sacs de ciment, plus de 200 sacs de ciment et avec les passagers dedans?
Normalement, non. Mais c'est comme nous disions tout à l'heure, là, M. Didier l'a dit, c'est le contrôle qui a manqué. Il y a des services de commissariat fluvial au niveau de Mbandaka. Ils n'ont pas veillé au chargement. On devrait voir combien de personnes vont embarquer, quelle quantité de marchandises vont embarquer. Toutes ces baleinières-là ou embarcations, il y a des tonnages. Est-ce qu'il y a eu respect des tonnages? Qui devrait veiller au respect des tonnages? En plus, il y en a combien? Moi, je suis ressortissant de là et je vous dis que si le tronçon Mbandaka Bolomba Centre, il n'y a que deux embarcations qui font des navettes chaque semaine.
Deux baleinières?
Deux baleinières seulement. Entre Mbandaka et Bolomba.
Et Bolomba.
De même entre Mbandaka et Mbondo sur la rivière Lulonga. Deux seulement.
Il n'y a même pas les bateaux des privés qui.
Il
n'y
a pas de bateaux, je vous dis, monsieur, il n'y a pas de bateaux. Il n'y a pas de bateau. Vous pouvez imaginer un homme sérieux, un homme responsable, il voit un bateau et une baleinière à côté, il va accepter de monter sur la baleinière et laisser le bateau. Il n'y a pas de bateau, que c'est comme ça que les gens se débrouillent de cette manière-là.
On va accueillir un auditeur, Maître Martin depuis Kananga. Vous voulez participer à cette émission? Eh bien, vous pouvez nous écrire à service@radiocapi.net. service@radiocapi.net et puis appeler au 099 706 99 41 099 706 99 41.
Landa basango ya mboka na Radio Kapi na téléphone to allo benga na 42 502 mpe beta 311 sansa inso okoki ko benga ofile Mbala Jomi na Vodacom. Vodacom.
Bien, Monsieur Martin, vous êtes en ligne depuis Kananga. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Emmanuel Elamégi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Non, Elamégi n'est pas ici. C'est jeudi, Kachama à l'antenne. Quelle est votre préoccupation?
Oui,
allez-y.
Oui, comme je l'ai... Merci beaucoup de la parole, Monsieur Jody. Et concernant le sujet qui est sur la table aujourd'hui, avec tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit, c'est un cas qui semble être régulier dans notre pays. Donc, nous avons plusieurs rivières par lesquelles nous avons des cas de naufrage de temps en temps. L'état par lequel coûte les vies, donc les vies de nos peuples, nos citoyens congolais et congolaises. Donc, sur mon commentaire sur Facebook, si vous regardez bien, j'avais suggéré que, si possible, le gouvernement central peut trouver des mesures adéquates pour, par exemple, diminuer les cas de décès, les cas de naufrage sur les rivières, les différentes rivières qui sont dans les pays et dans la RDC. Par exemple, nous avons sur les lacs Kivu, le fleuve Congo, à Bandaka et ainsi de suite, nous voyons qu'il y a des naufrages. Tout ça est dit à, par exemple, les expériences qui ne sont pas au top au niveau de ceux qui pratiquent le voyage, par exemple, les capitaines, par exemple, qui conduisent les bateaux, de tous les appareils qui sont sur le rivière. Donc, il y a des expériences qui sont un peu moins. On est en train de suggérer si le gouvernement central peut trouver les experts, par exemple, qui peuvent aider ceux qui pratiquent cette pratique. Donc, ils peuvent trouver des moyens comment on peut réduire, comment on peut, par exemple, naviguer sur le rivière. Tout ça, ça fait nous aider. Nous voyons que quelqu'un peut trouver un bateau, n'importe quel appareil qu'il peut mettre sur la rivière pour faciliter les transports. Bon, il lui arrive aussi avec ça, il cherche quelqu'un autre qu'il peut engager pour conduire tout ça, sans toutefois se rassurer que celui-là est à mesure de conduire. Sinon, c'était important et aussi que... les responsables des appareils maritimes, ils peuvent voir combien leurs appareils ont la capacité de transporter comme tonnes à charge. Donc tout ça, ça doit aussi permettre que la pratique de tout ceci, donc du transport maritime, peut être amélioré.
D'accord, merci tout monsieur, merci monsieur Martin depuis Kananga pour toutes ces propositions, monsieur Mukoma.
Notre interlocuteur de Kananga vient de dire quelque chose de très important, dans le sens que vous savez, nous avons beaucoup de gens qui évoluent dans ce secteur informellement, donc beaucoup d'informels dans ces. Vous remarquerez que moi-même, beaucoup de cas d'accident, quand vous allez chercher à connaître l'inventaire, il n'est pas connu. Or, nous avons une structure au niveau du ministère des Transports et Voies de Communication qu'on appelle Conseil supérieur de la navigation. Donc, c'est un conseil qui réunit toutes les parties prenantes qui œuvrent dans ce secteur de transport fluvial, qui se réunissent deux à trois fois par an pour chercher des solutions en rapport avec les transports. C'est-à-dire, cette structure est composée de la présidente de la République, le ministère des Transports, nous avons le ministère intérieur, de la Défense. Donc, presque tous ces services-là, ils se réunissent pour trouver des solutions. Et jusque-là, cette structure n'est pas encore mise en application. Je pense que c'est très important. Même aussi, vous remarquerez, toutes ces entreprises, toutes ces petites sociétés qui fonctionnent, elles ne sont même pas affiliées à une des associations. Ces armateurs-là, bon, moi je suis le président des armateurs, mais il y a beaucoup d'armateurs que je ne connais pas. Mais pourtant, je suis le représentant des armateurs, mais une grande partie d'armateurs, je ne connais pas. C'est pour cela, peut-être l'État pourra prendre des dispositions pour que un homme d'affaires, quelqu'un qui veut créer une entreprise, doit obligatoirement s'affilier à une structure de son choix. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de structures, nous avons la Fédération des entreprises du Congo, nous avons FENAPEC, nous avons les associations des armateurs. Donc, cela pourra aider aussi à l'État de surveiller les gens qui se mettent dans un domaine technique comme ce domaine de transport fluvial qui est tellement très délicat. Nous avons aussi, par exemple, le problème de personnel navigant. Nous avons une école qui forme le personnel navigant à Kauka. Mais vous verrez que les gens négligent. Normalement, c'est la direction de la marine qui devait prendre cette disposition. Ils ne pouvaient jamais délivrer un document, un certificat de navigabilité à un personnel, un membre d'équipage qui n'est pas passé par cette école de navigation. Ça a été dit depuis il y a plusieurs années, mais on ne prend pas ça en considération. Ce sont toujours des gens qu'on ramasse par-ci, par-là, qui se font personnel navigant. Ça aussi, vraiment, c'est vraiment un problème. Et j'insiste beaucoup sur la faiblesse de l'administration. Nous savons vraiment, si l'administration tient sa rigueur en ce qui concerne le contrôle des unités avant le départ, je pense qu'on aura moins de problèmes que ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui.
Voilà. Monsieur Désiré.
Oui, je vais abonder dans le même sens, dans le même ordre d'idée. Je sais qu'au Congo, nous avons toutes les lois, des bonnes d'ailleurs. Nous avons des tests, nous avons des structures. Mais le problème, c'est au niveau de l'application, de ces tests et de ces lois. Tout est régi. Vous ne pouvez pas comprendre qu'une embarcation puisse aller sur un cours d'eau sans qu'il y ait de permis. Toutes ces personnes-là, quand vous allez les demander, vous contrôler, vous allez voir qu'ils ont des documents. Ils ont des documents, des permis de navigabilité et tout ça. Mais la vraie question est de savoir comment ils les ont eu.
Par la corruption.
Sûrement. Est-ce que ce sont des gens qui sont vraiment formés? C'est comme M. Didier le disait. On ne peut pas donner un permis de navigabilité à n'importe qui. Il faut voir que le monsieur a été formé. Mais il ne suffit pas aussi seulement de lui donner des permis, il faut aussi des recyclages. Et qui doit organiser tout cela? C'est le service de l'État. C'est comme ça que j'avais commencé par dire qu'il y a eu des missions quelque part des services de l'État, au niveau de l'Équateur, à Mbandaka. Je crois que c'est au niveau de toutes les provinces.
Mais pourquoi les responsables de ces embarcations veulent toujours surcharger? C'est pour gagner plus?
Entre autres. Ils le font, entre autres, pour gagner plus. Entre autres, ils se disent pour aider les gens. Vous savez, moi personnellement, j'ai assisté à Mbandaka à un départ de ces embarcations-là vers Bolomba Centre ou vers Ngbondola. Les gens se battent pour entrer dans cette embarcation, je vous dis. Le voyage peut être fixé, le départ peut être fixé à 17h, mais les gens arrivent là-bas à 6h du matin pour se trouver de la place. Ça dit que la disponibilité, il n'y a pas de bonnes embarcations, il n'y a pas de bateaux. Et même les embarcations de fortune, là, il n'y en a pas beaucoup. La loi de l'offre et de la demande, c'est ça le problème. Donc il faut vraiment que l'État nous aide à appliquer les tests qu'il y a au Congo, qui réglementent tous les services, et particulièrement les services de navigation fluviale. On va éviter tous ces problèmes-là.
Et souvent aussi, ce sont les membres d'équipage qui s'arrangent avec certains services en cours de route. Parce que le propriétaire du bateau, l'armateur, peut être là, il sait qu'il a chargé son bateau, prenons un exemple, 400 tonnes. Mais quand l'équipage quitte les ports,
à partir
de Maluku, bon, il y a un endroit qu'on appelle kilomètre 17, dépassé Maluku. Vous trouverez, il y a déjà des dépôts qui sont construits là-bas. Ils s'arrêtent là-bas, ils surchargent les bateaux et personne ne saura pas les contrôler. Ça aussi, vraiment, c'est un grand problème. Et si, par exemple, comme nous insistons sur les services de l'État, ce sont ces services qui sont commis au contrôle des embarcations qui peuvent nous aider à éviter des cas pareils.
Bien, on va accueillir un autre auditeur, Julien de Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Hein. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cette question, à ces catastrophes qu'on enregistre sur le cours de la RDC?
Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole.
Merci de réduire le volume de votre radio. Merci de réduire le volume de votre radio pour éviter le retour désagréable à l'antenne. Oui.
Alors, je tiens premièrement à présenter mes condoléances à toutes les familles qui sont éprouvées par ces malheureux drames qui n'a pas de raison d'être, qui aurait dû être évité si vraiment l'État faisait bien son travail. Nous sommes d'avis tout ce que l'État, c'est le régulateur de la vie nationale. Je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, en tout cas, les responsabilités devaient être rétablies, mais en grande partie, c'est notre État qui faillit. Il y a la démission de l'État, c'est toute la ligne. Je suis d'accord avec les interventions de nos frères qui sont sur le plateau. Tout ce qu'ils ont dit est vrai. Mais moi, je crois que dans un État organisé, il y a des raisons de précéder les événements qui les laissent subir. Et ce n'est pas le premier cas. C'est le moins cette fois-là. À Bolomba, c'est une énième fois. Et c'est un peu partout. Moi, je crois que l'État doit fonctionner. Et fonctionner en mettant en place des services de contrôle. Parce que il peut y avoir un service qui peut faire le suivi de toutes les mesures qui sont applicables par rapport à ces secteurs-là. Les marins qui sont affectés dans des ports, ils sont censés suivre et suivre les convois, voir. Et les gens qui sont chargés, par exemple, pour les services fluviales, ils sont censés vérifier, comme les amis là-bas, et savoir les tonnages et tout ça. Mais aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train, à tout moment, d'enregistrer des cas comme ça. Et demain, ça sera la même chose. Bolomba, c'est un coin qui est tellement enclavé sur toute la ligne. À son temps, il y avait les voies routières, il y a les fleuves, il y a les rivières là qui sont censées être praticables et on affecte des unités flottantes pour assurer le transport des gens et de l'air bien. Mais est-ce qu'on fait attention à ça? Je ne pense pas. Quand vous allez à Bolomba Centre, il y avait un bac motorisé qui faisait la traversée là-bas. Mais ça fait des années que ces bacs-là ont noyé, mais personne ne s'occupe, que ce soit au niveau du gouvernement central, que ce soit au niveau du gouvernement provincial. Donc il y a un problème. On en parle aujourd'hui, mais est-ce qu'on va prendre des dispositions pour trouver des solutions? L'argent, on s'est trouvé, on a organisé la francophonie ici. L'État a trouvé des moyens, de manière urgente. Ça, il s'agit de la vie des Congolais. Mais on ne prend pas ça au sérieux. C'est bien, on parle aujourd'hui et tout ça parce qu'il y a eu des cas de mort. Donc, nous voulons seulement qu'il y ait des cas de mort et après on commence à parler. Puis après, on voit les gens viennent, on enterre les gens. Mais ce n'est pas ça.
Un État. Et après l'émotion, on oublie et on passe à autre chose.
Oui, donc moi je crois qu'il y a de quoi. Moi, je lance un message à l'endroit du président de la République, au chef du gouvernement et même au niveau de la province. Ce genre de drames ne reviennent pas. Ça fait des morts parce que chez nous. Au Congo, maintenant, la mort des gens, c'est devenu quelque chose de banal. Mais quand 50 personnes, 100 personnes meurent comme ça, mais c'est grave, et sous d'autres siècles, c'est grave. Moi, bien. Je crois qu'il est vraiment question que l'État prenne ses responsabilités. Parce qu'à un moment donné, nous allons commencer à faire on va commencer à aller en justice contre la République. Hein, parce qu'il s'agit de vie de gens. Et quand on gère, on doit gérer en tenant compte que vous gérez des gens. Je suis vraiment très content que des gens, des émissions passent. Mais que ça soit écrit, qu'il y ait des suivis et qu'il y ait des actions concrètes. Il y a un problème qu'on les résout de manière durable.
Bien, voilà. Merci M. Julien de Kinshasa. M. Mukoma, votre réaction?
Justement, il a tout à fait raison. Bon, vous voyez, il est en train d'accompagner tout ce que nous venons de dire. Mais je pense que des solutions, il y en a. Des solutions, il y en a. Et comme venait de le dire M. Jean Dieudonné Minengo, par rapport au Front National d'entretien des voies fluviales et ferroviaires, qui pourront aider à ce qui est des balisages, parce que ça, c'est un facteur qui est très, très, très important dans la navigation. Vous savez que nos bateaux naviguent à vue, c'est-à-dire nous n'avons pas de balisage, nous n'avons pas de dragage, donc nous naviguons avec beaucoup de risques. Si aujourd'hui ce fond est là et que le fleuve est entretenu, nos eaux sont entretenues, je pense qu'il y aura moins de problèmes. Et si ce fond-là est là et qu'il puisse servir aussi à aider la direction de la marine qui est un service de contrôle des unités, je pense que ça sera une deuxième résolution qui pourra aussi faire que nous puissions diminuer les taux d'accidents qui créent des morts dans les fleuves. Et le troisième, c'est les bateaux passagers. Nous avons quelques unités affectées au transport des passagers qui sont garées dans les ports de l'Onatra.
Les Lonatra.
Et qui manquent de moyens. Donc je pense que ça aussi c'est un point très important que l'État pourra voir comment faire fonctionner ces bateaux qui sont là, qui ont été réhabilités et qui sont en très très, très bon état de navigabilité, donc qu'on peut mettre à la disposition de la population pour les transports des passagers. Donc aussi la mise en place du conseil supérieur de la navigation, c'est très important. Si on se réunit chaque fois avec tous les services qui sont concernés dans ce secteur, je pense que on pourra diminuer les cas que nous sommes en train de déplorer. Et aussi, je me dis, l'obligation de chaque opérateur économique dans une affiliation, dans une association de son choix, ça aussi, ça pourra donner quelque chose. Et autre chose, c'est le chantier naval. C'est bien, nous construisons des bateaux, ainsi de suite, mais ça doit faire suivre des entretiens.
Les baleinières, où est-ce qu'on les construit généralement?
Bon, les baleines, on les construit dans tous les ports ici, à Kinshasa, surtout à l'intérieur du pays, là où il y a la production des bois. C'est là qu'on construit les ports. Ce sont des chantiers qui sont artisanales, qui ne respectent même pas les normes. Mais aujourd'hui, l'État doit...
Et les entretiens, est-ce qu'on fait régulièrement les entretiens de ces baleinières?
C'est ça aussi un problème, parce que normalement, les baleinières n'ont pas une longue vie. Ils n'ont pas une longue durée de vie. Donc, soit on doit les récarner régulièrement, moi j'ai pas tellement le nombre de mois qu'une baleinière peut tenir. Et aussi, il y a des moments, une baleinière ne peut pas dépasser 5 ans. 5 ans, on doit les moments déclasser pour peut-être fabriquer une autre baleinière. Mais vous remarquerez que les baleinières qui sont là, ils ne passent même pas au carénage, les bois là sont déjà fatigués. Il suffit qu'il y ait un petit coup et puis la baleinière s'éclate. Et nous aurons toujours beaucoup de cas d'accidents que nous déplorons.
Bien, on va accueillir bienvenue de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tout le monde.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces cas de naufrage fréquents?
Tout d'abord, je devais commencer par présenter mes condoléances à toutes les familles éplorées. Ma question s'adresse directement au professeur Jean-Didier Minengo. À quand vous allez nous épargner des discours futuristes? Parce que moi, je connais en tant que son ancien étudiant. Comment est-ce que le professeur Minengo prenait tout l'État peut-être d'arrêter les cours pour passer une mission fatiguée, les gouvernements passés? Aujourd'hui, il va nous dire on est tenté de faire ceci, on est tenté de faire cela pendant que les Congolais meurent. Jusqu'à quel moment ils attendent combien de personnes puissent mourir pour qu'ils mettent les choses au sérieux? Moi, je l'ai connu personnellement en tant que mon professeur, mais tous qui sont tentés de dire là, personnellement, je ne les reconnais plus.
D'accord, malheureusement il n'est plus en ligne avec nous, il est déjà...
Non mais je peux le confirmer qu'en tout cas il est là, c'est lui d'ailleurs qui est le pilier de ce projet. Il se bat pour que ce projet soit mis en application.
Mais pourquoi ça prend du temps? Parce qu'il y a des morts, il y a des cas de naufrage, on dit toujours voilà, on va faire, on va crier, mais il n'y a rien, monsieur Désiré.
Ayons l'espoir.
C'est comme vous avez dit monsieur Jody. Il faut attendre la mise en place de cette structure. Mais je sais qu'il y a aussi l'Office des voies navigables, la RVA, qui faisait aussi les balisages à l'époque. Les balisages, il faut les faire. Je pense qu'il y a des choses qui ont déjà été faites ici au Congo. Nous sommes des riverains. Je suis du territoire de Bolomba, de la province de l'Équateur. c'est les moyens de la voie la plus utilisée pour le déplacement des gens et de leurs biens là-bas, c'est la voie navigable. Je sais comment Onatra a vécu à l'époque. Les balisages avaient toujours été faits par la RVA, la RVF. Les balisages avaient toujours été faits. Le contrôle, là, à l'époque, quand nous quittions, par exemple, vous quittez Bolomba par la rivière Ikelemba pour venir à Kinshasa, à bord des bateaux de l'Onatra que nous avons cités tantôt, les Gounzi et les Goma. Il y avait des contrôles même au cours de la voie, pour éviter les cas de surchargement au cours de route. Vous arrivez quelque part, vous voyez les gens là de services de marins ou les services de contrôle qui entrent, ils vérifient les
documents.
Oui, tout ça. Ça s'est fait ici au Congo. C'est comme ça que je dis qu'il y a des tests, il y a des lois, il suffit seulement qu'on les mette en application et on éviterait tous ces problèmes. Tout ce que nous avons dit ici, c'est bon. Il faut baliser, il faut contrôler, il faut vérifier les documents.
Il faut former les personnels navigants.
Mais ça, on ne l'apprend pas aujourd'hui, on le sait. On l'avait commencé à le faire. L'école de formation de l'Onatra qui est à Kaouka ne date pas d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle fonctionne normalement aujourd'hui? Et pour forcer les gens à aller là-bas, à suivre la formation, c'est quoi? C'est le contrôle.
Et pourquoi seulement Kinshasa? On ne peut pas avoir les écoles un peu partout à travers le pays?
Oui, on avait à travers le pays, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on mette en application ces tests et lois que nous avons qui réglementent la vie. Et comme nous avons dit, et nous ne manquerons pas d'insister là-dessus, il faut que l'État qui organise les services de transport mette à la disposition de ces populations-là, particulièrement ici, la population, les populations de l'Équateur, du territoire de Bolomba, des bateaux comme tels, pour permettre au transport des personnes et leurs biens.
Monsieur Jean de Dieu Minengue, vous êtes de nouveau en ligne. Bonjour.
Bonjour Tati, bonjour de nouveau à tous les auditeurs.
Voilà, il y a un de vos étudiants qui est passé là, qui dit, mais vous avez toujours un discours futuriste, alors qu'il y a des naufrages maintenant, vous dites toujours, on va faire, on va créer, mais alors il dit qu'il ne vous reconnaît plus. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Non, il doit me reconnaître, peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Le développement, c'est toujours, on les projette dans le futur. Nous avons toujours pensé qu'il faut faire des choses à court terme. C'est comme ça que la République n'a pas avancé. On est dans la logique du présent. Pour construire l'avenir de façon durable, il faut être dans le futur. Il faut projeter les choses dans l'avenir. Alors, on fait des choses ici pour permettre. Les gens sont morts. Vous êtes en agitation et vous faites non, nous, on n'agit pas comme ça. En tant qu'intellectuel, en tant que professeur d'université, en tant que collaborateur du chef de l'État, je ne dois pas agir sur base des émotions. Je ne dois pas proposer des choses parce que les gens sont morts. Je dois proposer des choses pour qu'on puisse avoir un système de transport qui soit viable et qui puisse répondre aux besoins de la population et aux normes internationales. Donc là, je suis moi-même aussi perdu de voir qu'il ne me reconnaît plus. Le plus important aujourd'hui, Tati, le secteur du transport a été désarticulé, ça fait plus de 30 ans. Vous allez le construire en un jour ou vous allez le construire dans le futur? C'est pas Félix Tshisekedi qui est venu détruire l'Onatra.
Mais professeur Minengu, tous les bateaux de l'Onatra, là, Kokolo, Gungu, Mudimbe, les autres, Goma, est-ce qu'on ne peut pas remettre ces bateaux en service? Monsieur Jean Didier? Ah, dommage, il n'est plus en ligne. Monsieur Désiré, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on remette tous ces bateaux en service?
Ah, ça, c'est le service de l'État, mon frère. Qu'est-ce qu'il faut? Je pense qu'il suffit d'une bonne politique au niveau de l'Onatra pour relancer ses activités. L'Onatra, il peut recevoir des subventions de l'État ou chercher des partenariats avec l'extérieur, les investisseurs, pour relancer les transports fluviaux.
Mais est-ce qu'avec tous les tickets, les billets que les passagers vont payer, les marchandises, tout ça, est-ce que ça ne peut pas couvrir les besoins, les frais de fonctionnement?
Bien sûr. Il suffit seulement de mettre ça à disposition des gens. Vous allez voir que les gens vont venir, ils vont payer les billets, ils vont payer les coûts de leurs marchandises. Et l'Onatra, avec ça, il peut se relancer facilement. Comme vous dites là, il y a des unités qui traînent ici. Quand vous allez au port de l'Onatra ici, il y a des bateaux qui sont là-bas. À force de les garder comme ça, avec la corrosion sur les coques, ils finiront...
Ça va s'abîmer.
Oui, c'est du gâchis. Il suffit seulement de relancer les services comme on a vu à l'époque. Je vous dis que nous, on a grandi comme ça. On quittait les villages pour Kinshasa à bord des bateaux de l'Onatra. Et on était à l'aise avec ça.
Monsieur Didier Moukoma, est-ce que si on lançait un bateau ça, avec les recettes que ça va générer, ça ne peut pas couvrir les frais de fonctionnement?
Impossible. Ouais. Partout dans le monde, le transport des passagers a été toujours couvert par des subventions de l'État. Ou soit c'est lui-même l'État qui fait le transport, ou soit il subventionne un privé pour le faire. Parce que, vous savez, vous pouvez prendre, je vous donne avec des chiffres à l'appui, par exemple, si vous avez 500 passagers à 10 $ par passager, ça fait 5 000 $. Mais pourtant, un bateau, par exemple, tel que Kokolo là-bas, c'est un bateau qui te consomme dans les 200 000 litres de carburant aller-retour. Sans prendre en compte, il y a les réservoirs d'eau à boire. L'eau à boire, c'est pas de l'eau du fleuve qu'on voit. Donc, il y a de l'eau potable qu'on achète pour mettre là-dedans. Il y a un personnel. Et tout ça, c'est...
Qu'il faut payer tout ça, c'est des charges énormes.
Ce sont des charges, et pour cela, ça demande une subvention de l'État, et un privé ne peut pas le faire seul. Donc, comme j'ai dit, les bateaux sont là, c'est question de mettre les moyens pour que ça puisse naviguer. Nous avons aussi les bateaux Camagnola, c'est un bateau qui est là, qui existe, qui a été récaréné à fond. Donc, tous les fonds de ces bateaux-là ont été refaits, les moteurs ont été refaits, il reste seulement la structure. La structure, ce sont des embellissements qui ne coûtent rien, et que ces bateaux-là pourra naviguer. Mais il est là des années et des années.
Au
chantier naval de l'Onatra, ce bateau est là. Il est là, il navigue, on peut le démarrer aujourd'hui. Il va naviguer sans problème. À part, comme je vous ai dit, le problème des structures, c'est-à-dire les chambres, des décorations, ainsi de suite. Mais côté technique, côté navigation, ce bateau n'a pas de problème. Voilà. Donc c'est question de volonté, qu'on puisse mettre des moyens... pour que ces bateaux puissent...
Voilà, en attendant de relancer ces bateaux, le problème c'est au niveau du contrôle de toutes ces embarcations qui naviguent surtout la nuit. Pourquoi il n'y a jamais eu des arrestations? On a appris qu'on a arrêté par exemple un commissaire fluvial, il y a eu des procès et après et des condamnations. Vous verrez, après ces temps d'émotion, on oublie et puis la vie reprend normalement. Monsieur Désiré.
Oui, c'est vrai, c'est comme nous n'avons cessé de dire, c'est un problème de démission des services de l'État. Donc il faut restaurer tous ces services-là, le contrôle à partir du port de départ, le contrôle le long de la voie, et on va éviter tous ces problèmes-là. On peut éviter tous ces problèmes en attendant qu'on ait des bateaux comme tels, les embarcations peuvent fonctionner en respectant les tonnages, en respectant toutes les règles de jeu dans la matière. C'est-à-dire interdire les navigations nocturnes. Comme il n'y a pas de balisage, donc il ne faut pas rouler là, il ne faut pas naviguer la nuit, il faut naviguer la journée de manière à permettre à l'équipe de navigation de bien voir les obstacles qui peuvent être sur la voie, et aussi et surtout faire respecter les tonnages. Toutes ces embarcations, comme je disais au départ, dans le cas du jaugeage, on vous dit que votre embarcation ici a un tonnage d'autant. Il suffit suffisamment de faire respecter cela et les choses peuvent marcher.
Bien. Alors, donc, pour terminer, M. Didier Moukoma, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'urgence, à court terme et à moyen et à long terme?
À court terme, d'abord, il faut renforcer la sécurité. C'est-à-dire le contrôle des bateaux qui naviguent. On doit vraiment y mettre vraiment beaucoup de rigueur pour qu'on évite à ce que les bateaux puissent quitter les quais avec un mauvais chargement ou bien dans un état délabré. Ça, c'est à moyen terme, c'est quelque chose qui ne demande pas 2 à 3 jours de le faire. Et après, bon, il y a les problèmes de balisage. Donc, nous avons déjà une solution qui est en cours, dont M. Jean Dieudonné vient de nous parler tout à l'heure, donc le financement de balisage. Et aussi, le renforcement, le contrôle qui sera fait avec les moyens qui seront remis, par exemple, à la direction de la marine. Ça, c'est aussi un problème. Et de 2. Et de 3 aussi, là, il faut maintenant qu'on puisse... dissocier donc la gestion, la responsabilité. C'est comme je vous ai dit, c'est les commissaires fluviaux qui sont responsables des remises de sorties, des permis de sortie de toutes les unités. Mais les commissaires fluviaux aujourd'hui, ils sont sous la responsabilité des 2 tutelles. Il y a les gouvernements provinciaux, il y a les gouvernements centrales représentés par les ministres des Transports. Maintenant, je me demande, par exemple, dans ces cas de cet accident...
Oui, il y a un conflit de compétences quelque part qu'il faut rapidement résoudre.
Il faut qu'on puisse trouver une solution. Et je pense que c'est le ministère de Transport, qui est le ministère des tutelles, qui a la gestion comme depuis des années de cette équipe.
Bien, merci Monsieur Didier Moukoma, on a pris beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes représentant des armateurs à l'AFEC. Et merci à Monsieur Désiré Baleka, notable du territoire de Bolomba. Bon, juste quelques secondes.
Vous oui, pas quelques secondes, c'est pour demander à l'État de prendre maintenant ses responsabilités.
Oui.
À son Excellence, Monsieur le Président de la République, de décréter un deuil national. Plus de 100 Congolais morts comme ça, il faut qu'il y ait un deuil national.
Merci.
En plus, il faut qu'il y ait la prise en charge des victimes. Pour ce qui est des morts, je sais que le gouvernement provincial est en train d'enterrer.
Oui.
Mais les victimes, les rescapés qui sont là, ils passent de nuit.
Monsieur Désiré Baléka, merci. Le message est passé. Merci beaucoup.